Bonjour Issa. Oui, le soleil brille, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va évoquer les biographies dessinées parce que c'est un genre important qui n'est pas toujours réussi. Il y a parfois des livres qui boutonnent un peu des mains. Ça ressemble beaucoup plus à une sorte de travail de commande ou une façon d'occuper un espace littéraire et dessiné. Et c'est. Mais là, on va parler de biographies avec des œuvres remarquables. Et notamment celle de Franz Duchateau, qui a fait une biographie de Marcel Basculard, un dessinateur. C'est donc un dessinateur qui fait une biographie d'un dessinateur. Et c'est un exercice périlleux. Mais par contre, c'est une façon aussi de faire ressortir toute cette dimension du dessinateur qui est le sujet de la biographie, et c'est le cas. Bascoulard est un remarquable dessinateur, et là, la bande dessinée permet de donner une vie différente parce que le dessin permet de combler tous les manques qui manquent dans la documentation. C'est donc avec Franz Duchateau qu'on découvrira plus précisément cette œuvre à partir de 14h10, 14h15. Et puis il y aura d'autres biographies dessinées qui seront présentes dans cette émission. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Issa est en régie. La programmation musicale a été faite par Franz Duchateau. Ce sont trois chansons qui apparaissent dans cette biographie de Marcel Bascoulard. Je voudrais commencer par une biographie. Elle est un peu fictive, mais elle s'appelle Moi, Francky. Drogué, prostitué, directeur du festival de la BD. Alors, ça pourrait s'inscrire dans la lignée de toutes les brèves qu'il y a eu sur le festival d'Angoulême depuis l'affaire avec 9e Art Plus. Et là, donc, Franck Ballonnet, qui est le scénariste, Catou va être le dessinateur, eh bien, avec un humour fort, puissant, incisif. Il va imaginer ce que peut être lui en tant que directeur du festival de la bande dessinée d'Angoue. Alors, à chaque fois, il va faire de nombreuses citations, puisque le festival de la BD d'Angoue est dirigé par Franck Bondoux. Et donc, Bondox pour le livre, qui est donc. Eh bien, Franck Bondoux de 9e Art Plus, qui a été donc si intensément critiqué lors de cette affaire de l'Angoulême 2026, eh bien, à chaque fois, il va légèrement décaler la personne citée et on va avoir ainsi une sorte de gag à répétition. Alors, cette œuvre fictive, eh bien, c'est une façon d'imaginer eh bien, un des principaux animateurs de la maison d'édition Les Requins Marteaux, et puis qui après, maintenant, c'est publié par les éditions du Monte en l'air, et qui va donc utiliser cet humour décalé, incisif et réjouissant pour imaginer ce que peut être un auteur-éditeur qui va devenir le directeur général du festival de la BD d'Angoulême et qui, donc, forcément, ça peut pas coller avec Monsieur Bondox. Et tout est entraîné avec un rythme efficace, énergique, et ça fonctionne remarquablement bien, et d'autant plus qu'avec l'affaire qui a occupé Angoulême, eh bien, ça résonne avec encore plus d'ironie. Moi, Francky, drogué, prostitué, directeur du festival de la BD, c'est signé Franck Ballonnet pour le scénario et Catou pour la partie dessin qui, avec son pinceau très élégant, mais ironique également, mais magnifiquement en image, cette histoire. C'est publié par les éditions du Monte en l'air. C'est sorti au mois de février. Les 132 pages de ce livre sont au prix de 15 euros. Autre biographie, autobiographie même cette fois, avec Jeune et fauché de Florence Dupré-Latour. Florence Dupré-Latour a démarré des récits autobiographiques avec Cruel, et puis il y a eu Jumelles, Pucelle, et dernièrement Jeune et fauché. Le récit. Née dans une famille bourgeoise, Florence n'a jamais connu le froid ni la faim. Enfant, l'argent n'était pour elle qu'une idée lointaine, presque exotique, qu'elle retrouvait dans les pages de Liver Twist et Rémi sans famille ou de Princesse Sarah. À 18 ans, tout bascule. Ses parents la laissent se débrouiller seule. Elle découvre la dure réalité de la survie. D'abord étudiante cigale, puis mère célibataire et autrice précaire de bande dessinée. Toujours dans ce registre tragicomique qui fait sa signature, Florence Dupré-Latour livre un témoignage aussi drôle que terrible sur le déclassement, la survie et le prix de la dignité. Florence Dupré-Latour a un style, un dessin, un ton qui fait que on est dans un autre territoire de la bande dessinée que celui très souvent utilisé par l'autobiographie. Il y a dans son dessin, dans sa représentation même, une façon de traiter l'image et la représentation avec un dessin énergique qui va être un dessin humoristique, très schématique. Donc, le personnage n'a pas de réalisme spécifique. Il n'y a aucune espèce de soumission à un quelconque réalisme, mais toujours, constamment, une volonté d'être précise, directe, de pouvoir faire sens dans chacune des images avec un minimum de traits. Reiser avait ce même genre de démarche avec un trait beaucoup plus vachard. C'est pas la volonté de Florence Dupré-Latour qui a un trait beaucoup plus rond, qui n'a pas ce côté mordant, mais qui finalement va s'avérer être d'une grande efficacité parce qu'il va traiter avec un ton inhabituel. Sans phare, ça va être cash, sans tabou, ce qu'est l'argent, ce qu'est être jeune et fauché quand on n'a pas d'argent et quand d'autant plus on est issu d'une famille bourgeoise. Donc ce dessin va dresser le contexte des scènes avec quelques éléments. On va vraiment avoir, eh bien, principalement des personnages qui vont être présents à l'image et qui vont donner toute l'importance et la force à la scène. Florence Dupré-Latour va utiliser le récitatif pour évoquer les situations, une façon de revenir sur elle, puisque le récitatif serait celui de l'autrice aujourd'hui. Et donc, on va avoir, avec cette mise en image, un récit sur la précarité qui va toucher juste, qui va être incisif et qui sera d'un bout à l'autre, sans concession. Il y a des sentiments qui, ainsi, arrivent à émerger, comme cette détestation familiale qui l'habite, qui vraiment la bouleverse, parce que c'est pas un sentiment naturel. Et dans sa position, elle va devoir apprendre à se mettre en colère, apprendre à rompre. Et donc, les situations prennent une dimension dramatique, tragique même. Il y a une sorte de folie qui affleure, comme dans les grandes tragédies. Et il y a constamment cette ironie et cette dimension comique du trait qui va être associée à ces sentiments puissants comme ce que l'on peut ressentir quand vous êtes au fond du trou, quand la précarité semble sans fin, quand tout se dérobe autour de vous et qu'il y a des enfants qu'il faut continuer jusqu'à. Cette écriture dessinée et ces trouvailles graphiques qui vont être associées, puisque le dessin permet et la bande dessinée notamment, de trouver des représentations qui vont être une façon de, par un élément décalé, un élément irréel, comme par exemple ce dessin de la page 46, grande image, j'exprime mon mal-être, les silences, les non-dits de ma famille par le dessin, et elle se représente avec la bouche scotchée, et puis le cerveau ouvert, et de son cerveau, eh bien, une sorte de grand tuyau va jusqu'au dessin qu'elle est en train de faire sur sa page. À chaque fois, ces petits décalages, ces trouvailles donnent aussi une autre dimension, une autre importance à ce récit. Jeune et Fauché est donc une suite autobiographique à découvrir. Et si vous n'avez pas découvert les précédentes, eh bien, ça vaut vraiment, vraiment le détour de découvrir cette écriture et comment la bande dessinée explore ainsi de nouveaux territoires, de nouvelles façons de pouvoir utiliser le jeu avec le dessin. Jeune et Fauché de Florence Dupré-Latour est publié par les éditions d'Argo. Les 212 pages de ce récit sont au prix de 24,50 € et le livre a été publié en France.
De septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. La gadoue, vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, ouh, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou.
Franz Duchâsau a construit une œuvre en mettant en image des contes, des récits fantastiques, ironiques, avec les scénaristes Gwen de Bonneval et Fabien Vellman. Pour sa carrière solo, il fait se rencontrer la musique et l'image. La main heureuse, Lomax, Blackface Banjo, les jumeaux de Conoco Stations. Avec Marcel Bascoulard, Franz Duchâsau rencontre un dessinateur. Dessinateur virtuose, clochard magnifique, femme inventée, comme l'a nommé Patrick Martina pour sa biographie au cahier dessiné. Cette rencontre dessinée fait revivre cet artiste de Bourges que la ville n'a que tardivement reconnu. La bande dessinée imagine les manques de la documentation disponible. Cet artiste hors norme, vivant avec ses chats dans une cabine de camion, subsistant avec la vente de dessins, souvent des commandes, affirmant la bienveillance de ses concitoyens, vibrant avec le dessin. Ses vues de la cathédrale, des rues de Bourges, de paysages proches, font merveille. Cette biographie destinée reste au plus près de Bascoulard. Nous sommes avec lui, dans ses talents de paysagiste, dans sa passion pour les robes, de ses escapades avec Rita par ici. Mon cher ami de misère, comme elle l'appelait. Franz Duchâsau inscrit son dessin dans les gestes de Marcel Bascoulard, lui rendant hommage, retrouvant les émotions du dessinateur. Elles innervent toute cette biographie. Nous sommes avec Franz Duchâsau pour qu'il nous partage sa rencontre posthume avec Marcel Bascoulard. Bonjour Franz Duchâsau.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui a permis que cette biographie dessinée de Marcel Bascoulard soit possible? Est-ce qu'en tant que dessinateur, il y avait des craintes, ou non, ou pas du tout, à traiter de ce dessinateur incroyable?
Alors non, en tant que dessinateur du tout, moi j'avais simplement envie de partager du temps avec lui. C'est-à-dire qu'en lisant, en relisant sur sa vie et tout, c'est devenu comme un ami posthume en fait. Et plutôt que de le faire connaître ou de lui rendre hommage, j'avais envie de passer du temps. Donc quoi de meilleur que le temps long de la bande dessinée pour ça, quoi. Donc et en tant que dessinateur, mais en même temps, c'est moins le dessinateur qui m'intéresse que le photographe, à vrai dire, parce que
oui,
c'est plutôt sa démarche de photographie qui m'émeut le plus, en fait. C'est quelque chose de très, très bizarre quand on observe les photos. Elles sont à la fois extrêmement tristes et à la fois extrêmement touchantes. Et on se dit, mais pourquoi cet homme a... à passer 40 ans de sa vie à se prendre en photo, à faire des selfies, entre guillemets, enfin, des autoportraits, comme on disait à l'époque. C'est une fascination pour moi, en tout cas, à ce niveau-là. Moins pour le dessin que pour la photo de ses photos, de ses propres autoportraits, quoi.
Alors, il y a beaucoup de photos qui sont celles de Marcel Bascoulard avec ses robes, où il est en femme, tout en ne voulant pas être femme, mais il aimait s'habiller en femme. Alors là, on est sur le territoire de la photo et vous êtes avec le dessin. Alors, comment avez-vous abordé cette situation, Franz Duchâsau?
Le plus simplement du monde. Il se trouve qu'il est dessinateur et donc je raconte aussi sa vie de dessinateur dans les rues de Bourges. Mais pour lui, c'était vraiment uniquement un gagne-pain, en fait. C'était quelque chose de... C'était juste uniquement pour nourrir ses chats et qui faisait ça. C'était pas vraiment un choix artistique voulu, quoi. Il se trouve qu'il était à Bourges, il dessinait les rues de Bourges. Il s'en plaignait beaucoup. il dessinait 100 fois, 1000 fois les mêmes coins de rue, les mêmes bouts de cathédrale. Et il le faisait très bien d'ailleurs. Moi, ma préférence va plutôt vers les dessins qu'il fait sur des natures, sur la faune, la flore, les arbres. Je suis moins attiré par ces dessins de la cathédrale. Et voilà, il faisait ça aussi. Et donc, il faisait beaucoup de choses, en fait, Basse-Coulard. Il avait de multiples talents. Il écrivait beaucoup de poésie. Il faisait de la cartographie. Il dessinait des cartes immenses dans les moindres détails. Et voilà, c'était un artiste très polyvalent, en fait. En plus d'être dessinateur et photographe, quoi. Donc le dessin, moi, c'est son activité la principale qui menait sa vie, quoi. Mais c'était quelque chose qui, au fil du temps, est devenu quelque chose de moins important pour lui. Et d'ailleurs, il s'est tourné un peu plus vers l'art abstrait, vers la fin de sa vie. Mais il le faisait uniquement pour son propre plaisir, puisque personne ne lui achetait ses dessins abstraits. Et avec le boucher du coin qui lui achetait avec lequel il échangeait des morceaux de viande et lui prenait des dessins abstraits, quoi. Enfin voilà, c'était et ce qui était assez drôle, c'est que ce boucher qui adorait les dessins abstraits de Basse-Coulard lui a fait une mini-exposition dans la boucherie, et il était beaucoup plus touché par cette petite exposition dans la boucherie de ses dessins abstraits que ses dessins de cathédrale et de rue de Bourges à la Maison de la Culture, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui dessinait uniquement pour gagner sa vie et pas vraiment avec une démarche artistique propre, quoi. Donc moi, j'ai essayé de me mettre un peu dans ses pas en dessinant un peu comme lui les bâtiments, mais ce qui m'intéressait, c'était de le suivre dans les rues et puis d'être comme si j'étais avec lui sur le tricycle, quoi.
Alors, France Duchazeau, les écrits sur Basse-Coulard sont pas très nombreux. Il y a cette biographie de Patrick Martina, publiée au Cahier dessiné. Vous faites apparaître dans votre biographie Rita Parisi, qui a donc écrit un livre sur Basse-Coulard.
Elle a écrit un grand texte sur Basse-Coulard, voulant faire un livre, mais le livre n'est jamais paru.
Alors, donc, parce que vous mentionnez ce texte, Adieu,
ben oui, il est disponible aux archives de Bourges, en fait.
D'accord. Donc, alors, justement, comment avez-vous constitué, c'était l'objet de ma question, un corpus pour pouvoir réaliser cette biographie, et comment avez-vous pioché dans les informations? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écartées que vous ne vouliez pas mentionner?
Oh ben, par exemple, la cartographie, il faisait beaucoup de cartes du monde, il dessinait des cartes du monde, mais j'en parle à peine dans l'album, parce que c'était annexe, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter sa vie, les dernières années de sa vie dans Bourges, quand il est harcelé par des gens qu'il croit riches, quoi. On le croit riche parce que il change de vêtements régulièrement, il a des vêtements de femme, il se promène en vêtements féminins, il en fabrique régulièrement, donc on pense qu'il a beaucoup d'argent. On pense il y a l'arrivée du journaliste de RTL, Collaro, qui lui fait dire, entre guillemets, que il est riche de plein de choses, il s'intéresse à tout, à l'art contemporain, à l'art ancien, à l'astronomie, à tout un tas de choses, et que finalement il est riche de plein de choses, il est archi milliardaire, et quand l'interview passe à la radio quelques temps plus tard, les gens du coin ont pris ça au pied de la lettre en disant « ben voilà, c'est ce qu'on pensait, Basse-Coulard, il est riche, donc on va le harceler et on va le... » il a fini par être tué par ça, quoi. Enfin, c'est totalement absurde, quoi. C'est un peu comme notre époque ici, maintenant, quoi. On dit un truc à la radio ou je ne sais où, sur un réseau, et ça peut nous retomber dessus très vite, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Basse-Coulard. il a vécu dans la terreur pendant un an avant d'être assassiné quand même. Hein. Donc voilà, à partir de tous ces éléments-là, j'avais assez de matière pour pouvoir à la fois parler de sa démarche artistique, où il est complètement dans son truc tout le temps, et il n'y a que ses dessins et ses photos qui comptent, ses relations avec les commerçants, et mais malgré tout, une forme de réel est venue le percuter, quoi. C'est-à-dire, on l'a pris pour quelqu'un de... Alors qu'il était, il se trimbalait en haillon dans les rues de Bourges avec son pauvre tricycle, et on l'a pris pour quelqu'un de riche. C'est une situation complètement absurde, en fait. Alors, et il y avait toute cette relation qu'il avait avec Rita, où il parlait d'art, qui considérait comme une sœur, hein, c'était purement platonique. Et voilà, quoi. Il y avait tout ça, tous ces éléments-là à développer, à montrer. Ce personnage est extrêmement touchant, en fait. Enfin, moi, qui me touche toujours énormément, et j'avais beaucoup de mal à rendre l'album, d'ailleurs, parce que j'avais toujours envie de changer des choses ou allonger un peu le nombre de pages. Enfin, j'avais du mal à m'en séparer, quoi.
Duchazeau, Basse-Coulard avait une connaissance de l'art. Il y a ces échanges avec Joseph de la Mézière, qui était peintre et enseignant. Et là, vous avez choisi de laisser de côté cette partie-là, mais qu'on sente quand même que c'est un connaisseur de l'art.
Eh bien, justement, si j'ai l'intention de faire un livre 2 où je développerai sa relation avec Joseph de la Mézière quand il est jeune, quand Basse-Coulard est jeune. Mais bon, après, ça dépend pas de moi, ça dépendra si le livre marche, le premier. Mais j'ai l'intention de développer son enfance avec son petit frère, quand il vit tout seul dans la maison, quand la mère est plus là, le père est mort. Et j'aimerais développer cet aspect-là, toute cette relation qu'il a avec Joseph de la Mézière, avec la correspondance, qui est dans le bouquin de Martina, et j'aimerais beaucoup faire ça, quoi, mais ça dépend pas que de moi, quoi. Mais j'ai laissé volontairement cet aspect-là pour le livre qui est paru, parce que il y avait beaucoup de choses aussi à raconter. Il y avait donc toute cette histoire avec ce journaliste qui est venu l'interviewer, qui a été fatal pour Basse-Coulard. Mais maintenant. Oui, il y a certains flashbacks aussi dans l'album où on voit une partie de son enfance à l'école où quand sa mère assassine son père à coups de pistolet. Et donc il y a certains flashbacks, mais tous ces petits flashbacks, j'aimerais les développer dans un livre plus long, quoi. Et peut-être à venir ou pas, je sais pas.
Comment avez-vous construit l'ensemble? Comment travaillez-vous, France Duchazeau? Est-ce qu'il y a une écriture précise d'un scénario? Est-ce que les pages du récit se mettent en place au fur et à mesure, texte et dessin ensemble? Comment ça se passe?
Il y a un scénario, de toute façon, oui, que je storyboard bien avant le dessin. Donc, j'écris toutes les séquences que j'aimerais montrer, et après je les développe en séquences plus longues storyboardées, c'est-à-dire sous forme de petits dessins très vite fait dans des cases. Et après j'essaie de, une fois que j'ai plein de séquences comme ça, un peu disparates, je les relis entre elles, en fait, avec un fil invisible comme la couture, quoi. On relie les séquences entre elles pour arriver à faire une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Et donc là, en l'occurrence, c'était ça démarre où il se prend en photo, on comprend tout, on voit tout de suite où on se situe, toute sa relation avec les commerçants, puis la problématique du jeune homme qui lui demande de l'argent, ensuite le journaliste qui vient l'interviewer, l'interview à la radio, tout le monde entend cette interview, Basse-Coulard dit qu'il est riche de plein de choses. Ensuite, à nouveau, ce jeune homme qu'on a vu au début qui qui lui réclame encore de l'argent, et puis après il est en prison, ce jeune homme, donc il lui réclame encore plus d'argent. Voilà, c'est tout un petit monde qui se met en place comme ça, et on essaie de trouver du lien et du lien entre chaque séquence, quoi. Et jusqu'à arriver à la fin, les choses doivent se tenir envers et contre tout. Voilà comment ça se passe.
Je vous propose, Franche Duchazeau, d'avoir une pause musicale.
Oui.
Ça sera le deuxième morceau. Donc c'est Bonnet-M, et c'est des morceaux qui viennent donc du livre, de votre livre sur Marcel Bascoulard. À tout de suite.
À tout de suite.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Franche Duchazeau à l'occasion de l'édition de sa biographie dessinée sur Marcel Bascoulard. Franche Duchazeau, vous avez utilisé un gaufrier comme base du découpage. Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir cette régularité, notamment dans la hauteur des images? Il y a bien sûr quelques variations, mais pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? Parce que, par exemple, quand on va au cinéma, il n'y a pas 36 formats d'écran, quoi. Donc la bande dessinée, pour moi, c'est très... le gaufrier, ça me permet de raconter exactement ce qui me plaît en n'utilisant aucun artifice particulier. Je goûte peu aux bandes dessinées qui partent dans tous les sens au niveau du cadrage, enfin au niveau des cases. Je trouve que c'est de l'artifice qui est souvent peu justifié, et je trouve qu'un gaufrier est beaucoup plus... permet une narration beaucoup plus claire, en fait. Et donc c'est plutôt mon goût va plus vers ça, en plus du noir et blanc, et je respecte les goûts, c'est-à-dire que je n'essaie pas de faire autre chose que ce que je sais bien faire, en fait, c'est-à-dire raconter une histoire très simplement, sans artifice, quoi. Donc c'est, voilà, c'est après on peut se permettre des choses plus ou moins lâchées ou précises dans les cases, mais je trouve que ce postulat là de départ en gaufrier est pour moi ce qui est le plus simple pour la narration, en fait.
Et lorsque vous faites les flashbacks sur la famille, sur la vie familiale, sur ce moment où la tension entre le père et la mère de Basse-Coulard va aller donc jusqu'au parricide, ça se montre particulièrement efficace avec une unité de lieu, de cadrage, de point de vue. C'est toujours cette volonté d'une très grande fluidité dans la lecture, et dans la narration et la lecture.
Bah oui, c'est pas, souvent dans les bandes dessinées, on voit quand on passe d'une époque à une autre, hein, ou quand il y a un flashback, les couleurs changent ou tout est différent. Alors qu'en fait, c'est pas utile. On peut garder un gaufrier avec des cases qui suivent et on sent tout de suite qu'on change d'époque. C'est les liaisons, c'est la façon dont on amène les choses qui font que le lecteur y croit ou pas, quoi. C'est pas en utilisant plein d'artifices qui sont pour moi inutiles, en fait. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein, mais après, voilà, c'est la façon uniquement dont on amène dont on amène les choses qui font qui font la différence entre la narration classique qu'on est en train de lire, l'histoire classique, et un changement de moment ou de... Entre deux cases, il peut se passer une seconde et il peut se passer 10 ans, quoi, en fait. Mais ça, c'est la façon dont on amène la chose, et la bande dessinée est extraordinaire pour ça, quoi. C'est... voilà, quoi. C'est vrai qu'entre deux cases, il peut se passer 5 ans ou 100 ans, quoi, en fait. C'est fou, quoi.
Franz Duchazot, quelles émotions avez-vous ressenti lorsque vous dessiniez avec les points de vue de Marcel Basse-Coulard quand il est devant la cathédrale, devant des paysages ou une locomotive, il adorait les locomotives. Et puis il y a aussi la reproduction de dessins abstraits, de photos que vous dessinez. Quelles émotions était présente à ce moment-là, Franz Duchazot?
Bah, je pense que lui, quand il dessinait, il se mettait vraiment dans une bulle. C'est-à-dire que c'est le cas pour tous les dessinateurs, je pense. Le temps n'existe plus. Et on commence une case, une page qui nous prend la journée. Et c'est une forme de se mettre en dehors du monde, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est même comme une prière, quoi. C'est presque ne plus faire partie du monde. Et puis lui, il devait d'autant plus le ressentir qu'il avait d'autant plus besoin de ça qu'il était un dessinateur public, finalement. Donc, quand il dessinait, il était souvent interrompu par les gens qui voulaient venir le voir. Donc, il faisait tout pour les tenir à distance. Mais quand il se mettait dans son dessin, et puis Dieu sait s'il a passé du temps debout, dehors, par tous les temps, à dessiner à faire des grands dessins noirs et blancs à la plume, avec des traits, des milliards de traits sur chaque dessin, c'était une façon de se retirer du monde, quoi. C'était vraiment être dans une prière, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je suis bien dans ma bulle, quoi. Et je veux pas qu'on vienne m'emmerder, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et je le comprends très bien, parce que c'est une façon de s'abstraire du monde, quoi. Et il n'y a rien de mieux que le dessin pour ça, quoi. Parce que on est à la fois dans le monde et à la fois en dehors du monde, quoi. C'est étrange. C'est une sensation très, très étrange. Je pense qu'il était comme ça, exactement de cette façon, quoi. Il ressentait les choses de cette façon, en fait.
Franz Duchazot, dans votre dessin, vous utilisez une matière charbonneuse. Comment s'est choisi ce style de dessin? Puisque finalement, votre dessin s'adapte au récit que vous mettez en œuvre. Et là, donc, il y a ce choix. Vous souhaitiez décaler du travail graphique, de la forme graphique des œuvres de Basse-Coulard.
Ben, moi, je vais naturellement vers des sujets où je sens qu'avec mon dessin, je peux faire quelque chose. Et généralement, c'est des sujets, que ce soit dans le sud des États-Unis dans les années 30, où mon dessin s'adapte bien à cette période-là, au sujet auquel je traite. Et donc, c'est simplement, c'est pas du Fusain, c'est de l'encre de Chine, en fait, avec du pinceau. Voilà, c'est pas du tout du Fusain. Et puis voilà, c'est aussi une façon de raconter. Le dessin raconte une autre histoire que l'histoire elle-même, avec des mots et tout. Ça fait partie de l'ensemble, en fait. Et je vous dis, je pense que mon dessin s'adapte bien avec l'univers de Basse-Coulard, quoi. Comme il s'adapte bien à l'Amérique des années 30, ou comme il s'adapte bien avec certains sujets mon dessin, je vais naturellement vers des sujets comme ça. Avec le dessin que j'ai, c'est sûr qu'avec ce dessin-là un peu charbonneux, j'aurais du mal à raconter une histoire qui se passe à Wall Street, avec des immeubles, avec des gens habillés en costard-cravate. Naturellement, j'irais pas vers ça, en tout cas.
Il y a pourtant, France Duchazeau, quelques doubles pages avec ce bourge en construction, avec la figure du maire en costard-cravate.
Oui, bah, parfois il y a des personnages comme ça. Quand on fait une bande dessinée, on ne dessine pas toujours ce qu'on veut. C'est-à-dire, si vous êtes Picasso, vous dessinez à peu près ce que vous voulez, mais Picasso ne dessinera jamais une de chevaux, ou il ne dessinera jamais, je ne sais pas moi, une Clio, ou des objets plus modernes, si vous voulez. Donc quand on fait de la bande dessinée, on est un peu contraint à dessiner des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Donc dessiner un type en costard-cravate, bon, ça peut être marrant une fois, deux fois et trois, mais c'est pas vers le sujet vers lequel j'ai envie d'aller, quoi. Mais voilà, quoi. Après, quand on fait de la bande dessinée, on est contraint de dessiner plein de choses, quoi. Des deux chevaux. Bon, le bourge médiéval est quand même sympa à faire. Voilà, on est contraint à dessiner des trucs pas forcément qu'on irait vers ça, quoi.
Comment avez-vous travaillé les dialogues, France Duchazeau? Ils sont essentiels. Et est-ce qu'il y a un moment où vous les confrontez au dessin en relisant les planches, l'ensemble de vos planches? Comment se passe cette étape?
Bah, ça, c'est difficile à expliquer. Ça vient naturellement. Il faut que il faut que ça sonne juste, en tout cas. Et en fait, peut-être les dire tout haut en les écrivant, il y a une justesse qui apparaît plus que si on les dit juste dans sa tête. Et et puis c'est un jeu de dialogue, par exemple, avec Rita, quand il dialogue un peu sur l'art ou tout ça, on essaie de créer des personnages qui prennent vie et qu'ils ont chacun leur mode, leur façon de parler. Donc c'est rigolo d'essayer de se creuser la tête à trouver chacun sa façon de. Et encore, on parle, là c'est une bande dessinée, mais on parle très peu de la façon dont s'exprimait Basse-Coulard, et qui il y a quelques vidéos qui traînent de lui ou de archives sonores. Il a une diction très très particulière et il a un langage très soutenu. C'était quelqu'un d'extrêmement cultivé au niveau de la langue et qui réfléchissait à chaque mot qu'il prononçait, et il prenait bien le temps de. Il parlait très lentement, il s'exprimait de façon très lente. Et on sent que chaque mot est pesé, quoi. Donc, y a cet aspect-là. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus intéressé quand j'ai commencé à m'intéresser à Basse-Coulard. C'était pas uniquement l'homme qui se retire du monde et qui emmerde tout le monde. C'est l'homme extrêmement éduqué et son langage très soutenu qui m'a le fait, qui a fait le, que je tombe plus amoureux de lui encore que si je l'avais pas entendu parler, quoi. C'est vraiment le... Quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, je peux plus me passer de lui, en fait. Et parce que c'est... Voilà, c'est son aspect de, en haillon sale et puant, en contradiction complète avec son langage, en fait. Enfin, on s'attend pas à ce qu'il parle aussi bien.
France Duchazot, est-ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui encore un basse-coulard ?
Sûrement qu'il y en a, il faut les trouver, quoi, c'est ça le truc. Mais
il était vraiment dans l'espace public, basse-coulard. On le voyait. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce genre d'artiste marginal présent.
C'est-à-dire que quand on fait un métier artistique, en général, les gens veulent être reconnus et connus et qu'il y ait de la reconnaissance. Alors que lui, c'était tout l'inverse, quoi. Il cherchait exactement à ce qu'on à ne pas avoir ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait aux journalistes qui venaient le voir. Les gens, ils leur parlaient parce qu'ils étaient là. Mais il leur disait à la fin, s'il vous plaît, n'écrivez jamais mon nom dans le journal. Et puis quand il découvrait qu'il y avait son nom dans le journal, il était furieux. Parce qu'il faisait ça uniquement pour être tranquille, lui. Et c'est tout. Il cherchait absolument pas la reconnaissance, ni à être reconnu, ni rien du tout, quoi. C'était. Je pense que c'est lié à son traumatisme d'enfance, quoi. Il avait vécu des choses extrêmement graves. Avec sa mère qui tue le père. Et dans ces moments-là, on a juste envie de se retirer du monde, quoi. On ne veut plus se justifier sur rien et on préfère. On n'a pas le courage de s'en aller et donc on continue à vivre parmi les autres et on préfère se taire. Et ce qu'il faudrait mieux faire de temps en temps, le plus souvent d'ailleurs, c'est se taire, je pense. Et être vivant, mais se taire surtout, quoi.
Merci beaucoup, France Duchazot. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, Marcel Basse-Coulard. C'est publié par les éditions Sarbacane. Les 164 pages de votre livre sont au prix de 25 euros et le livre a été imprimé en France. Merci et très belle continuation. Et en espérant et en souhaitant que le tome 2 sera là et on sera au rendez-vous. Merci, au revoir.
Merci à vous. Chazot.
Merci.
Merci.
Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en frétillant. Je dois m'en aller en Italie, en laissant tout seul mon mari. Un chien lui tiendrait bien compagnie, en étant toujours avec lui. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine qui me regarde en frétillant? Je viens de lire que dans les nouvelles il y a des voleurs de cœur. Si de mon mari le cœur chancelle, il protégera mon bonheur. Je n'ai pas besoin de souris blanches, ni même d'un perroquet savant. Quant aux poissons rouges, même un dimanche, il aurait l'air bête en les promenant. Combien pour ce chien dans la vitrine, ce joli petit chien jaune et blanc. Combien pour ce chien dans la vitrine? Eh bien, c'est d'accord,
Avant de parler, de finir cette émission avec la biographie de Ernie Bushmiller, qui s'appelle Free Rocks, écrite par Bill Griffith, je voudrais évoquer le personnage de Nancy, qui est donc l'héroïne créée par Ernie Bushmiller. C'est le livre hommage à Nancy de Lucas Varela, The Nancy Horror Picture Show. La référence à The Rocky Horror Picture Show est évidente. Et c'est un peu le principe de ce recueil de Lucas Varela. Si au lieu d'avoir vu le jour dans les pages des journaux américains des années 30, les personnages de Nancy et Slugo avaient grandi dans un vidéoclub des années 80, coincé entre Freddy et Massacre à la tronçonneuse. Et c'est le point de départ de ce recueil de Lucas Varela. Il choisit un récit, un film d'horreur, un film fantastique. Il va en donner le titre et puis il va mettre en scène, dans l'esprit du film, eh bien, Nancy et Slugo. On a par exemple l'image qui correspond au film de The Shining, où on a Slugo qui est sur sa trottinette, sur son tricycle, et il a face à lui deux jumelles, c'est deux Nancy avec les yeux qui sont deux points rouges, et on est tout de suite dans cette évocation de la scène de Shining, mais avec une Nancy qui correspond peu à celle des récits de Ernie Bushmiller. On revisite ainsi l'ensemble des films, une grande partie des films d'horreur, de fantastique, et il y a un humour absolument jubilatoire avec des dessins notamment sur Halloween, sur le Dracula de Bram Stoker, sur les oiseaux, The Birds. Et là, la scène est assez étonnante. Ce qui est important avec ce recueil d'images de films avec le personnage de Nancy, c'est que Nancy et Slugo résistent, mais parfaitement, à ce traitement qui rappelle et qui souligne à quel point ce personnage au dessin d'une très grande lisibilité, d'une précision extrême, s'adapte complètement, assume, supporte cette lecture où elle est associée à des ambiances de films d'horreur. C'est de l'humour noir jubilatoire. L'innocence de Nancy, qui n'est pas totale, et on le verra avec la biographie de Bill Griffith, en tout cas, rencontre eh bien, ces ambiances plutôt gore de ces films. The Nancy Horror Picture Show, c'est publié par les éditions Tanibis, donc c'est signé par Lucas Varela, les 40 pages de ce format carré sont au prix de 13 €. Un petit coup de Shadok pour passer à cette biographie de Bill Griffith, Free Rocks, l'histoire d'Ernie Bushmiller, l'homme qui créa Nancy. Alors, pour nous, Nancy, c'est Arthur et Zoé. Nancy et Slugo, Slugo n'est pas mentionné dans le titre américain. Et en français, c'est Arthur et Zoé a eu très peu de résonance. Les albums de l'époque étaient souples, avec une pagination relativement légère. Et il n'y avait pas cette qualité que l'on découvre avec la version américaine, avec la version des journaux. Il faut dire que, aussi bien que le succès de Nancy est relativement modeste, il y a quelques inconditionnels, et puis, dont je suis d'ailleurs, et puis le succès américain, c'est tout l'inverse. Nancy est apparue dans un strip, une première bande dessinée de Ernie Bechmiller qui s'appelait Fritzi Ritz. Et c'était avec un personnage de femme plutôt réaliste. Et Nancy qui avait tout de suite sa forme, sa silhouette, va arriver. Et puis, donc là, on est en 1933. Et en 1938, Nancy devient l'héroïne de sa propre série. Il va y avoir une production incroyable. À l'époque, assez rapidement, Nancy est publiée dans à peu près 300 quotidiens. En 82, l'année où va décéder Ernie Bechmiller, c'est 900 quotidiens dans le monde qui publient les histoires de Nancy. Alors, c'est important, et c'est là l'œuvre essentielle, la force de Freelox, c'est justement d'approfondir les partis pris, les processus de création de Ernie Bechmiller sur Nancy. Et donc, Freelox va nous plonger dans l'histoire d'Ernie Bechmiller et comment, bien sûr, il va démarrer son métier de dessinateur, comment va se mettre en place Fritzi Ritz et comment va apparaître Nancy. Il va vraiment s'attacher à dégager l'importance de cette héroïne. Qu'est-ce qui fait que Nancy a eu un tel succès? Si vous avez en mémoire l'image de cette héroïne et de son compagnon, de son compagnon de série Slugo, vous vous rappelez cette image et sinon les autres découvraient cette image de Nancy qui est une sorte de petite fille traitée de façon plutôt humoristique avec, comme on dit, elle est haute comme trois pommes, mais avec ce dessin d'une très grande précision qui fait que on va avoir des profils, des trois quarts face, des visions de face, mais avec toujours une silhouette extrêmement proche les unes des autres. Il y a notamment dans la coiffure de Nancy des sortes de petits épis qui représentent une coiffure plutôt abondante. Il y en a 69. Il y a une rigueur dans la représentation qui fait qu'on va toujours avoir ce même traitement de la chevelure et donc cette très grande régularité avec une amplitude de gestes plutôt simple. Il n'y a pas de grande variation dans les attitudes et il y a toujours ce dessin d'une très grande précision et d'une extrême lisibilité. Alors c'est d'autant plus important que Bill Griffith, qui est un dessinateur, qui est l'auteur par exemple de Tête d'épingle, qui a un dessin avec une approche très différente, il utilise la hachure, il y a un dessin donc plutôt réaliste, mais avec une qualité de trait qui fait que la représentation nous place vraiment dans le grand champ de la bande dessinée au trait, et il va y avoir ce contraste constant entre son style graphique à lui et la façon, à travers différentes citations, où il va reprendre le dessin de Nancy. Donc déjà, dans la lecture de cette biographie dessinée, on savoure vraiment ce contraste graphique qui est toujours éclairant sur ces différences d'approche possibles dans la bande dessinée. Il y a une idée essentielle chez Will Griffith qui est de dire « tout doit avoir l'air d'être vrai ». Et c'est un axe dans son écriture dessinée qui est essentiel lorsqu'il va mettre en place un décor dans une histoire de Nancy. Le décor va être simple, va être juste une sorte d'évocation du contexte. On va rester principalement centré sur les personnages parce que la façon de traiter le décor avec simplicité, mais avec efficacité, parce qu'il faut que ça ait l'air vraisemblable, eh ben, marche à merveille. Il y a aussi dans cette écriture graphique une volonté de rester constamment lisible. Il y a un moment, une affirmation, vous pouvez réduire la taille jusqu'à être un minuscule timbre-poste d'une séquence de Nancy, vous la reconnaîtrez, vous saurez que c'est elle, et il y a en plus une volonté d'être d'une grande lisibilité pour la lecture des textes. Il y a également, parce que ce freelog, cette biographie d'Ernie Bushmiller, fourmille d'informations, fourmille de réflexions sur le projet, sur le concept narratif et graphique de l'auteur de Nancy, et c'est vraiment, on s'immerge pleinement. Il évoque une relation épistolaire entre Ernie Bushmiller et Samuel Beckett. On ne s'y attend pas du tout, et pourtant, plusieurs pages y sont consacrées. On a l'échange de courriers, Beckett qui propose des scénarios à Ernie Bushmiller, ils discutent, ils échangent, ils progressent, et c'est étonnant. En fait, cette info, ça a été imaginé par un écrivain, journaliste, qui a utilisé cet artifice pour montrer aussi l'importance de cette bande dessinée et la façon dont elle pourrait intéresser un écrivain comme Samuel Beckett. Alors c'est d'autant mieux choisi qu'une des phrases puissantes de Samuel Beckett, c'est « ramener le silence et le rôle des objets ». Et il y a un silence dans les bandes dessinées de Nancy, parce que cette qualité de trait, cette lisibilité permanente, cette façon de donner aussi de l'amplitude au récit, avec un côté où on va vers le surréalisme, où on va dans des récits complètement inattendus, à chaque fois, le dessin permet d'avoir constamment cette lecture d'une très grande pureté, d'une très grande fluidité. Et Ernie Bushmiller n'en a jamais changé, il n'a jamais dérogé à ce choix de départ pleinement assumé. Il y a eu des repreneurs, c'est évoqué, mais ce n'est pas le plus essentiel. L'essentiel, c'est cette façon dont Bill Griffith nous immerge dans la création de Ernie Bushmiller, l'homme qui créa Nancy. C'est préfacé par Art Spiegelman, c'est publié par les éditions Casterman, et les 288 pages de ce récit, de cette biographie dessinée en noir et blanc, sont au prix de 28 euros, et le livre a été imprimé en France. J'ai légèrement dépassé, mais ça valait la peine. Je vous souhaite une très bonne semaine sur les ondes de Radio Escapade, et merci Issa pour cette technique. À la semaine prochaine.
Écriture dessinée.